Bonsoir à tous. Écoutez, vu le nombre de personnes qui sont dans cette salle, ce livre dont nous allons parler autour de Jean Bobéro est à l'évidence un événement. Donc je m'en réjouis. Nous sommes nombreux à aimer ton travail, Jean, il faut le dire, à t'apprécier. C'est à la fois un travail toujours très, très sérieux, scientifique, si on peut dire, et en même temps très engagé. Tu ne mâches pas tes mots quand tu dois t'exprimer. Et donc, ce premier volume dont nous allons parler, qui en annonce deux autres, donc retenez votre souffle, parce que ça va durer un moment. Et donc, c'est une très, très belle chose, et on en est très, très heureux. Je suis aussi très, très heureux que notre ami, monsieur le ministre, c'est comme ça qu'il faut dire ? C'est Jean-Noël, évidemment. C'est Jean-Noël, évidemment. Mais c'est quand même un plaisir aussi d'avoir une personnalité très importante, non seulement de notre vie intellectuelle, un grand historien, mais aussi de notre vie politique. Et puis enfin, Philippe Portier, un complice. Nous étions encore ce matin en réunion ensemble et que bien des gens ici, je suppose, connaissent pour ses travaux, je dirais, de sociologie et d'histoire des religions. Il nuancera peut-être, mais enfin, cher Philippe, c'est comme ça que je te décrirai. Alors, je ne vais pas être long, parce que ce n'est pas du tout à moi de vous parler. Sinon, pour vous souhaiter la bienvenue, vous êtes ici dans les locaux de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, qui partage ce bâtiment avec une autre institution, l'École des hautes études en sciences sociales. Les gens confondent très souvent les deux, mais vous êtes ici côté Fondation Maison des Sciences de l'Homme. On est très, très heureux de vous recevoir. Et je donne tout de suite la parole. Alors, mais je ne sais pas à qui. Est-ce que vous avez prévu un plan de table ? Bon, alors,
merci Michel. Merci d'ailleurs à toute l'équipe de la MSH qui a accompagné l'écriture de ce livre, son édition, sa publication et maintenant sa diffusion. Merci à Dora. Où elle est, Dora ? Elle est là, devant moi, qui a collaboré étroitement à ce livre et notamment qui est allé dans les archives de la commission parlementaire dont je vous parlerai, parce que moi, pour des problèmes personnels, je ne peux pas beaucoup me déplacer. Et merci aux deux discutants, évidemment, et à vous tous et toutes qui êtes venus pour ce soir. Bon. Je ne vais pas m'attarder sur ces remerciements, parce que je voudrais être bref et j'ai pas mal de choses à dire. Je vais tout de suite passer au sous-titre du livre. Le sous-titre, donc, ça commence par « Histoire politique ». Et il me semble que la séparation a souvent été envisagée dans une optique d'histoire religieuse, ce qui est tout à fait légitime, mais qu'il faut aussi l'envisager, bien sûr, dans l'optique d'une histoire politique, en se posant une question qui, à mon avis, m'a paru la question centrale, en tout cas c'est celle-là que j'ai voulu résoudre, par quel miracle, et le terme de miracle a été employé par Ferdinand Buisson, a-t-on pu aboutir à une loi de liberté? Alors l'expression loi de liberté, évidemment Briand l'a beaucoup utilisée, mais également Clémenceau, également Jaurès, Buisson aussi, beaucoup d'autres, etc. Donc, par quel miracle a-t-on pu aboutir à une loi de liberté au moment même où, au nom de l'émancipation républicaine, l'anticléricalisme d'État devenait de plus en plus autoritaire et se trouvait entraîné dans une série de mesures de plus en plus répressives? Et il y a souvent donc un court-circuit qui est fait entre justement le contexte de la loi de séparation qui est très conflictuel et la loi elle-même. Et du coup, la loi de 1905 est à la fois invoquée comme une loi de liberté. Ça, je crois que maintenant, pas mal de gens ont compris que c'était une loi de liberté, de l'extrême gauche à l'extrême droite, d'ailleurs. Mais en même temps, comme une loi qui aurait mis au pas l'Église catholique, alors qu'il me semble que les choses sont tout à fait différentes. Et donc, moi, j'ai essayé de répondre à cette question en m'inspirant de l'inspecteur Colombo. En effet, dans la série de télévisée Colombo, ce qui est spécifique, c'est qu'on connaît déjà la première scène, montre la fin de l'histoire, le crime qui se produit. Donc, on connaît la fin dès le début. Et là aussi, pour la loi de séparation, on connaît la fin dès le début. Bon. Et pourtant, rétrospectivement, Colombo nous entraîne dans les différents méandres de son enquête, ou des coups tordus, des zigzags, s'opèrent, etc. Et à la fin du téléfilm, on s'aperçoit qu'au départ, on avait vu ce qui s'était passé, et maintenant, on sait ce qui s'est passé. Et c'est la différence entre le voir, l'observation, etc., et puis le savoir, qui fait le sel, disons, de cette série et qui fait qu'il y a du suspense, même si au début, on assiste à la scène finale. Et donc, j'ai essayé de répercuter cette manière d'appréhender les choses dans ce livre. Alors, ça m'amène à dire que, justement, loi de liberté peut-être, mais loi de liberté pacificatrice. Et c'est ça qui est peut-être la réussite de la loi de séparation, c'est que c'est une liberté qui a pacifié, alors qu'il peut avoir une liberté guerrière qui continue le combat. Et cette pacification, elle s'est faite rapidement, en quelques années. Et donc, il n'y a pas eu une mise au pas, mais il y a eu, en 1908, une situation qui n'était plus du tout celle de 1904. Et ça... Et là, je reviens au sous-titre, grâce à des séparations au pluriel. Et c'est ça aussi un peu la spécificité de mon livre, c'est de dire histoire politique, des séparations des Églises et de l'État. Alors, des séparations pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a eu quatre lois, finalement, qui, ensemble, ont réussi la séparation. Et ensuite, parce qu'il y a eu différentes conceptions de la séparation qui se sont affrontées et que j'insiste sur cet aspect. Donc, quelle est la situation au début du processus? Au début du processus, évidemment, la situation est marquée par ce qui a été l'affaire Dreyfus. Bon, je le signale pour mémoire, mais je ne vais pas insister puisque c'est supposé connu. Bon. Mais ce qui constitue davantage un point aveugle, c'est le fait qu'il y a une crise culturelle de la morale laïque parce qu'il y a une crise du spiritualisme républicain et il y a une crise du scientisme. Et peut-être qu'il y a la nécessité de remobiliser les troupes républicaines, et quoi de mieux pour les mobiliser que combattre un adversaire. Alors en fait, il y a trois adversaires dans cette affaire. Trois menaces, et la République doit se défendre contre chacune de ces menaces, et elle doit aussi faire œuvre d'émancipation pour les gens qui sont victimes, si vous voulez, victimes consentantes, mais victimes quand même de ces menaces. Alors la première menace, c'est celle évidemment des congrégations. Le congréganiste fait des vœux qui est considéré comme incompatible avec les principes de la République. Les congrégations enseignantes éduquent une jeunesse qui serait anti-républicaine. C'est le thème des deux jeunesses lancées par Waldeck-Rousseau. Et donc, il faut séculariser le congréganiste, c'est-à-dire lui enlever son vêtement religieux et qu'il ne vive plus en communauté. Et en le sécularisant, on l'affranchit de l'esclavage, entre guillemets, le terme est souvent employé, qu'il subit... en étant dans la congrégation, et en même temps, on neutralise le danger que représente la congrégation pour la République. Mais il y a une seconde menace, et la seconde menace, ce sont les femmes. Plus exactement, la soumission des femmes au cléricalisme, là aussi, entre guillemets. Alors, heureusement, dit-on, qu'elles n'ont pas voté en 1902, parce que, étant donné qu'au premier tour, la majorité était seulement de 200 000 voix, s'il y avait eu le vote des femmes, la gauche n'aurait jamais gagné. Mais il y a un danger encore plus insidieux, et là aussi qui est peut-être moins perçu par la mémoire collective, qui est le danger de que la République devienne efféminée. Les femmes commencent à conquérir des places dans la société. Et donc, la République doit être virile, c'est à l'époque une valeur fondamentale de la République, et il y a un danger qu'elle devienne efféminée. Et la solution, c'est, alors que le cerveau des femmes est par nature sentimental, de leur insuffler la rationalité par l'éducation républicaine, afin que leur cerveau, enfin, puisse devenir plus rationnel. Et oui, ça fait rire, mais c'est dit très sérieusement à l'époque. Et la troisième menace, c'est le fait qu'il y a ces liens concordataires qui subsistent, donc qui donnent un statut semi-officiel au catholicisme, que les catholiques obéissent au pape. Enfin, il y a un problème de double légitimité. Ils sont français, mais ils obéissent à un souverain étranger. Ça, c'est un thème récurrent. Et ce souverain étranger, le pape, intervient dans la vie politique française. Alors là, il y a deux solutions possibles. La première solution, c'est un concordat renforcé. C'est la solution, en fait, qui a les faveurs de Combes pendant longtemps. Et la seconde solution, c'est la séparation des Églises et de l'État. Mais, évidemment, en assurant à la République des droits pour que l'instrument qui est le concordat ne lui soit pas enlevé des mains et qu'elle ne soit pas impuissante. Alors, Waldeck-Rousseau, puis Combes ont une politique républicaine ferme, et pourtant, paradoxalement, à la fin de 1904, au début de 1905, beaucoup de gens considèrent que la menace a grandi, est plus présente que jamais, malgré toutes les mesures qui ont été prises. La menace congréganiste, parce qu'il y a eu un discours inflationniste sur la menace que représentaient les congrégations, mais comme on ne veut pas trop quitter la logique de la démocratie, les mesures juridiques qui ont été prises n'ont pas correspondu à l'ampleur de la menace racontée. Et en plus, certaines fois, les tribunaux ont freiné des cas de fer. Donc, il y a une distance entre le discours politique très inflationniste de la menace et les mesures juridiques qui sont prises. Et donc, le bon peuple pense que ça veut dire qu'on n'a pas pris assez de mesures répressives et qu'il faut en prendre davantage. Et on en prend davantage, mais la menace subsiste toujours. Il y a toujours un écart. Et notamment, les sécularisés sont des sécularisés fictifs. Ils ont abandonné leurs vêtements religieux, ils ont abandonné leur vie en communauté, mais ils gardent le même état d'esprit. On pensait que ça changerait leur cerveau, et pas du tout. Ils ont le même état d'esprit. Et la majorité des écoles congréganistes ont été fermées, ou les suivantes seront fermées dans un délai de 10 ans. Mais une majorité d'entre elles, une grande majorité d'entre elles, a été remplacée par des écoles libres, qui ont exactement, pour les républicains, le même état d'esprit que les anciennes écoles congréganistes, avec une modernisation qui s'est opérée, et notamment les parents d'élèves qui sont mis dans le coup. Et donc, l'enseignement confessionnel semble s'être renforcé plutôt qu'affaibli. Au niveau des femmes, les femmes catholiques se sont organisées, et des femmes libres-penseurs ont dénoncé la République masculine, et on dit qu'elles étaient des parias catholiques et qu'elles sont devenues des parias laïques, mais qu'elles sont toujours des parias. Enfin, au niveau de la menace, je dirais, catholico-papale, eh bien, le fait qu'il y a les gens qui sont partisans du concordat renforcé, les gens qui sont partisans de la séparation, fait qu'on a l'impression longtemps de faire du surplace. Mais quand même, la situation évolue, et en 1903, il y a un premier projet important qui est déposé par Francis de Pressensé, une figure du Parti socialiste et une figure du dreyfusisme. Bon. Alors, je ne vais pas donner la 98 articles, bon, donc je ne vais pas vous donner la teneur de son projet, mais je vais insister sur un seul point, qui est le statut des églises et des cathédrales. Qu'est-ce que deviennent les églises et les cathédrales? Propriété publique pour les républicains, et avec de sérieux arguments, je dois dire, dans le projet de Pressensé. Eh bien, Pressensé veut respecter la liberté de conscience. Donc, pendant au moins 5 ans, ces cathédrales, ces églises seront louées pour les catholiques aux heures de la messe. Bon. Mais aux heures de la messe, c'est-à-dire que ces églises et ces cathédrales seront louées à d'autres convictions, religieuses ou irreligieuses, à d'autres heures. Alors, soit les protestants, les juifs pourront faire leur culte ou leur cérémonie dans les cathédrales, mais aussi les sociétés de libre-pensée, mais aussi la Ligue de l'enseignement, mais aussi les universités populaires. Notre-Dame de Paris, par exemple, servira à tous ces usages. Et pourquoi? Parce que c'est un patrimoine commun de la nation, ce sont des maisons du peuple, pour le peuple. Bon, bref, elles auront des usages multiples. Et évidemment, c'est contraire à ce que va faire la loi de 1905, puisque dans la loi de 1905, il y a une dévolution gratuite et indéfinie des églises et des cathédrales et autres édifices religieux propriété publique aux différentes confessions, et des conditions drastiques pour la désaffection de ces monuments, qui fait que d'ailleurs, au Canada, en Grande-Bretagne, il y a beaucoup plus d'églises qui sont transformées en supermarchés ou en bibliothèques qu'en France. Alors là, mais je vous donne pas de détails parce que, après tout, il faut lire le livre. Il y a Proust qui prend position contre la désaffectation des cathédrales de manière très très proustienne. Alors, ceci dit, c'est une situation où tout le monde a peur. Tout le monde a peur et il y a des peurs contradictoires. Alors évidemment, il y a des peurs catholiques. Si on désaffecte les cathédrales et les églises, et puis il y a le refus évidemment que Notre-Dame serve un peu à tout le monde, bien sûr. Bon. Donc si on désaffecte les cathédrales et les églises, on va faire la messe où ? On va la faire dans les granges et dans les bois. Bon. Donc le terme des granges est un terme récurrent. Bon. Il va avoir en fait une persécution, et le mot de persécution est extrêmement récurrent aussi à cette époque. Bon. Alors vous voyez bien que tout ça a peu à voir avec ce qui est advenu. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris récemment a remis en scène le thème de la cathédrale maison du peuple, maison commune, etc. Mais dans des conditions totalement différentes, puisque à la fois cette cathédrale est un édifice religieux exclusivement catholique, et à la fois il est considéré comme un patrimoine national, comme une maison commune, en tout cas c'est ce qui a été dit lors de son incendie. Bon. Et de même, si vous voulez, après la loi de séparation, ce qu'on appelle les cardinaux verts, c'est-à-dire les académiciens catholiques, ont écrit au pape pour leur dire « la loi nous permet de croire ce que nous voulons et de pratiquer ce que nous croyons ». Donc, pas de persécution. Bon. Ceci dit, pour Pidis, au contraire, il y a en fait une persécution déguisée. Il faut que cette persécution déguisée devienne une persécution visible. Et dans cette persécution, l'Église sera régénérée. Il y a un aspect régénérateur de la persécution. Et donc, c'est une des explications des refus successifs de Pidis, puisqu'il va refuser les quatre lois de séparation, mais il va perdre, puisque la séparation va quand même marcher. Mais d'un autre côté, les républicains ont peur d'une loi de séparation libérale, et Briand doit tout le temps essayer de les calmer, et c'est comme le tonneau des Danaïdes, c'est jamais, le calme n'arrive jamais. Alors pourquoi ? Eh bien, une des figures du Parti radical résume ses peurs républicaines en disant « ce ne sera, si la séparation est libérale, ça ne sera pas l'Église libre dans l'État libre, comme le disait Cavour, ça sera l'Église toute puissante dans l'État désarmé ». Donc vous voyez, le concordat, ce n'est pas du tout vu principalement comme une officialité de l'Église catholique. Certes, c'est ça, et on râle contre ça, mais c'est aussi vu comme un instrument de la République pour juguler le catholicisme, pour le contrôler. Et si on perd cet instrument et qu'on est libéral, on va être impuissant face à cela. Alors, comment on est sorti de cette logique de la peur ? C'est ça, là, évidemment, l'important. C'est ça qu'on peut indiquer être le miracle, entre guillemets, de la loi de 1905, en sachant que ces peurs sont restées, après coup, malgré tout, très présentes chez certains catholiques et chez certains républicains. Mais au niveau des affrontements, les affrontements de 1903-1904, à partir de 1908, ont cessé. En 1914, il y a une relative union sacrée. Alors c'est là que l'historien, disons, doit faire son travail et doit un peu se distinguer de l'opinion commune. Parce qu'il doit aller de ce qui fait alors l'actualité à ce qui est la réalité socio-historique. Alors qu'est-ce qu'on peut constater comme historien ? On peut constater que si les affrontements de 1902 à 1904 sont vifs, ils sont minoritaires. La presse se focalise sur les affrontements, notamment en Bretagne, mais en fait, par exemple, la majorité des processions se font dans le calme. Et ce calme, il est construit C'est-à-dire que c'est les différents acteurs qui s'arrangent pour que ça se fasse dans le calme. Hein, c'est un résultat d'action politique et d'interaction entre les différents acteurs bon, qui calme le jeu, qui arrive à calmer le jeu. Donc, c'est important de voir comment, en fait, on parle tout le temps de guerre civile, mais la France de 1903-1904 n'est pas réellement en guerre civile. Et souvent, le calme règne, mais ce n'est pas ce dont parlent les journaux. La commission parlementaire qui travaille depuis juin 1903, elle travaille dans le calme. Il y a 17 séparatistes, 16 antiséparatistes, mais Buisson et Briand arrivent à les faire collaborer, à créer une sorte de dynamique de groupe, à créer de l'estime réciproque, bon, à faire que tout ça travaille ensemble et qu'en juin 1904, un projet de loi est construit et Briand est nommé rapporteur de ce projet de loi à l'unanimité de la commission. Que les gens soient de gauche ou de droite ou du centre, qu'ils soient séparatistes ou concordataires, tous nomment Briand comme rapporteur de la commission. Mais, toujours pareil, comme la commission travaille dans le calme, eh bien, elle ne fait jamais la une des journaux. Les comptes rendus de la commission sont en page 2 ou 3, quelques lignes, et personne ne les lit. Et en mai 1904, quand Briand annonce que son projet va être prêt, les députés lui répondent « Dans combien de temps ? Dans 20 ans ?» bon, alors qu'il est presque prêt, puisqu'il va être déposé, puisqu'il va être finalisé début juillet. Donc, elle a travaillé dans le calme. C'est évidemment un exercice d'équilibriste fragile. Et Émile Combes, en déposant son propre projet de loi, va atteindre ce calme et va semer la zizanie au sein de la commission. Mais malgré tout, il y a de l'acquis. Et quand Combes va quitter le pouvoir, on pourra recoller les morceaux et la commission va pouvoir présenter son projet en mars 1905. Alors, troisièmement, l'historien doit être très attentif aux dates. Et là, je me permets d'être en dissensus avec la manière dont Claude Nicollet, je pense que certains d'entre vous ont lu son livre classique sur l'idée républicaine, présente cette idée républicaine. Il le présente, pour le résumer vraiment, évidemment, à la hache, il le présente comme une sorte de sacralisation de la République par elle-même, nécessaire étant donné l'histoire de France. Bien sûr, cette sacralisation existe, et disons, de 1900 à 1903, effectivement, il y a ce processus de sacralisation qui a l'œuvre. Mais son diagnostic me semble pas juste pour 1904-1905. Certes, bien sûr, il continue à avoir des gens qui sont très attachés à un sacré républicain, mais on voit de plus en plus de personnes qui contestent ce sacré républicain parce que, finalement, il conduit à une impasse. Puisque, je l'ai dit, les menaces sont toujours là, les problèmes sont déplacés, ils ne sont pas résolus, ils sont peut-être même aggravés. Donc, je l'ai dit, les écoles congrégationalistes sont souvent devenues des écoles libres, etc. etc. Bon. Et du coup, certaines élites républicaines, Briand, Buisson, Clémenceau, mais aussi Hollard, Bouglet, etc., contestent cette sacralisation de la République. Et puis les femmes, Nathalie Roussel, Aubertine Auclert, etc., aussi contestent ce qu'elles appellent des idoles laïques. Donc on parle à ce moment-là, pour les contester, de dogmes laïques, d'idoles laïques, de tyrannie possible de l'État laïque. Clémenceau insiste sur le fait que la République est faillible. Hollard, qui est un historien réputé, dit qu'en République, il n'y a pas de délit de blasphème, et donc la Déclaration des droits de l'homme, on peut la discuter, on peut en débattre, on peut être contre certains de ses articles. Donc le délit de blasphème qui ne doit pas exister, ce n'est pas seulement face aux religions, c'est face à la République elle-même, etc. Bref, il me semble plus juste de définir l'idée républicaine comme une tension entre une conception sacrale. Alors, quand on a cette conception sacrale, on estime que la République est toujours du côté de la liberté, que les deux causes se confondent, qu'il est illégitime de réclamer la liberté contre la République, et une conception profane qui se manifeste également, où on insiste sur le fait qu'il y a un conflit possible entre la République et la liberté, et que s'il y a conflit, c'est la liberté qui a raison et la République qui a tort. Alors, reprenons ces deux positions, mais chacune de ces deux positions se divise en deux. Les deux positions qui ont une sacralisation de la République. On peut se servir de Lévi-Strauss et de Triste Tropique. Il y a des sociétés, nous dit Lévi-Strauss, qui pratiquent l'anthropophagie, qui neutralisent l'adversaire en l'absorbant, en le mangeant. C'est Combes. Combes, il veut purifier le catholicisme, et pour le purifier, il veut l'épurer, et il compte sur ses préfets pour épurer le catholicisme. Il est anthropophage, il veut manger le catholicisme dans la République. Mais il y a des sociétés qui pratiquent l'anthropoémie, qui vomissent et, plutôt que manger, qui expulsent les éléments dangereux hors du corps social. Et ça, c'est Maurice Allard qui veut expulser les religions de la République, recommencer la déchristianisation révolutionnaire. Face à cela, les séparatistes libéraux... alors, ces gens-là, ils vont perdre. Ils vont perdre tous les deux, nettement. Et c'est les séparatistes libéraux qui vont gagner. Mais dans les séparatistes libéraux, in fine, il y a quand même un désaccord. Il y a ceux comme Clémenceau, comme Buisson, qui sont, je dirais, des francs-tireurs de la mouvance radicale, mais pas représentatifs de tous les radicaux, parce qu'il y a des radicaux qui sont autoritaires, mais francs-tireurs de la mouvance radicale, qui voient la liberté de conscience d'abord comme une liberté individuelle. Et ensuite, les individus peuvent s'organiser collectivement. Mais c'est le versant libéral de la loi de 1901, la liberté d'abord individuelle. Et au contraire, Briand, Pressensé, qui a évolué entre 1903 et 1905, et Jaurès, estiment que l'individu a forcément une dimension collective, parce qu'il vit en interaction avec autrui. Et donc, qu'il faut donner aussi des droits collectifs, qu'il faut respecter l'organisation intérieure de chaque culte, et en particulier de l'Église catholique. Et il faut reconnaître que ça innove par rapport à la tradition républicaine classique et que ça se situe plutôt dans la filiation de John Locke. Cela l'a emporté, mais la bataille fut rude. Je conclue, parce que j'ai déjà sans doute dépassé mon temps de parole, mais je conclue en citant le titre d'ouvrage de Jean-Noël Lannée, « La République a besoin d'histoire ». On sera d'accord pour dire qu'elle a besoin d'histoire historienne, si on peut dire. Je l'ai déjà dit, les couples heureux n'ont pas d'histoire. Le calme non plus n'a pas d'histoire. On fait l'histoire du bruit et de la fureur. Et pourtant, le calme est un construit socio-historique. Et donc, je me demande si l'historien ne doit pas faire l'histoire des couples heureux, puisque les couples heureux, leur bonheur, ils le construisent par interaction. Et de même, les situations calmes, les situations sereines, les situations non dramatiques, elles sont construites par des acteurs, il faut insister là-dessus, sinon on voit la réalité de manière encore plus pessimiste qu'elle n'est réellement. Deuxième point, Husserl insiste sur le fait qu'un cube a six faces, mais qu'on ne voit jamais les six faces. C'est ce que j'ai dit, la différence entre le voir et le savoir. Bon, on voit au mieux trois faces. Et on peut affirmer péremptoirement que le cube n'a que trois faces. La preuve, c'est regarder le cube. Bon. Et en fait, l'historien donc doit dénicher les points aveugles, insister sur les faces cachées, si vous voulez, du voir, et les analyser, les décrypter. Bon. Mais il doit faire attention aussi à ses propres enjeux idéologiques. Il est aussi citoyen. Et donc, il doit faire attention à ne pas avoir ses propres faces cachées, et donc il doit décrypter même ce qui lui est désagréable comme citoyen. Et en écrivant ce livre, et le tome 2 aussi sera dans le même sens, parce que les documents le montrent, la participation du centre, voire du centre droit, à l'élaboration de la loi de séparation est très importante. On la voit dans un affrontement droite-gauche qui est partiellement pertinent, mais seulement partiellement. C'est vraiment une alliance, disons, de implicite et parfois intention, mais quand même une alliance qui fonctionne à partir de mai 1904 surtout, mais déjà à la Commission, entre le centre et Briand, qui fait que la loi de séparation a pu être élaborée. Et moi, personnellement, comme citoyen, j'aurais préféré que la loi de séparation soit purement et durement de gauche. Bon, mais les documents me montrent que c'est pas vrai, et donc j'affronte ce fait désagréable ou j'essaye de le faire. Bon. Troisième élément, rassurez-vous, il n'y en a que quatre, donc j'ai presque fini. Le structurel et le conjoncturel, le collectif et l'individuel. Bon. Évidemment, il y a des raisons structurelles qui poussent à la séparation. Évidemment, la séparation est une œuvre collective avec une infinité d'interactions. Bon. Mais en même temps, on peut se demander s'il n'y a pas une pierre d'angle et si cette pierre d'angle ne s'appelle pas Aristide Briand. Et on peut se poser la question, quand Aristide Briand était jeune, il a été surpris en flagrant délit avec une femme mariée et il a pensé à ce moment-là partir en Amérique. S'il était parti aux États-Unis, est-ce que la loi de 1905 aurait existé? On peut se poser la question, c'est pas sûr. Quatrième et dernier point, donc il y a la recherche d'une véracité scientifique, et cette véracité scientifique, à mon avis, elle va contre la tendance dominante de la société actuelle qui, je crois, malgré les apparences, est hyper moraliste. Hyper moraliste. Et beaucoup de gens, dans tous les sens, et pour toutes les causes, et toutes les bonnes causes, qu'elles soient excellentes ou mauvaises, sont avant tout des moralistes. Ne serait-ce que le fait de fonctionner par tweet, et rapidement par scoop, etc., de faire le buzz, ça pousse au moralisme. Et d'une part, bon, je pense que cette position conduit à dire des choses qui sont fausses et qu'il faut les dénoncer comme fausses, et que là, le scientifique a un devoir de dénoncer ce qui est faux. Pour prendre un exemple, la loi de 1905 n'a pas influencé la séparation mexicaine qui date de 1859. Comme De Gaulle n'a pas influencé Jaurès, si vous voulez. Bon, dire. Donc, il y a des choses qui sont fausses, et il faut le dire comme telles. Bon. Et en même temps, il ne faut pas être moraliste vis-à-vis des moralistes. C'est-à-dire que donner de l'épaisseur historique à leur position, montrer que quand ils veulent, par exemple, une laïcité autoritaire, ils se situent dans une filiation qui existait déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et donc leurs propos ne sont pas insensés, qu'on peut les comprendre, même si personnellement je les désapprouve comme citoyen, bon, ça permet de ne pas être dans un débat uniquement moral et moralisant. Donc voilà, je pense qu'après l'époque de la critique du scientisme, maintenant est venue l'époque de la nécessité de résister au dictat du n'importe quoi, et que c'est le rôle de l'historien, des sociologues, plus généralement du chercheur en sciences sociales de faire ce travail. Je vous remercie.
Eh bien, cher Jean Beaubéreau, je voudrais dire en commençant que je suis très touché que vous ayez souhaité que je célèbre cet ouvrage. Je l'aurais été de toute façon, compte tenu de votre itinéraire. Nous ne nous connaissons guère. Je sais votre trace et votre apport à la connaissance de ces sujets. Mais de surcroît, j'avais pris un risque, au fond, pas tellement, puisque j'avais accepté de le commenter avant de lire le livre. Vous avez une collaboratrice très persuasive. Et à présent, j'en suis vraiment heureux. Je suis heureux de le faire devant mon cher ami Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, devant le biographe de Briand, dont j'ai vu le sourcil se lever une ou deux fois quand il est passé dans votre propos. Et je voudrais rebondir pour commencer sur ce que vous avez, votre dernière partie. Vous avez annoncé un plan en trois parties, ça ne m'a pas surpris. Le vieux Cagneux a approuvé. Mais ce que vous dites sur la réflexion méthodologique à quoi vous a conduit ce magnifique travail m'a intéressé. Je trouve très heureux votre comparaison. Je regrette pas y avoir pensé moi-même. Votre comparaison avec Colombo. Je me permettrai de m'en servir comme plusieurs d'entre vous. D'abord, ça signifie que vous êtes un homme de votre temps, que vous ne vous enfuyez pas du côté des bibliothèques seulement. Ensuite, parce que ce rapprochement est très valide et nous éclaire sur ce péril constant contre quoi vous ne cessez pas de vous battre dans ce livre, c'est-à-dire la téléologie, c'est-à-dire le fait que ce qui est arrivé était voué à arriver, ce qui empêche de revenir à ce qui est fondamental de notre discipline, c'est-à-dire restituer à chaque moment l'efflorescence des possibles qui n'ont pas eu lieu. Et cela apparaît constamment dans votre ouvrage. C'est un point que, qui m'a frappé. Panoramique, zoom, dites-vous, vous multipliez les angles. Je crois que cela aussi fait partie de notre travail, peut-être de notre génération. Nous ne croyons plus que les infrastructures déterminent les superstructures. Le contraire fonctionne, ça marche dans tous les sens. Et nous ne croyons pas non plus que la longue durée, aussi essentielle qu'elle soit, explique tout. Et j'aime aussi beaucoup dans ce livre que vous valorisiez la part de hasard. Je crois que notre génération d'historiens, je ne sais pas s'il faut généraliser, s'est aussi colter davantage avec la notion de hasard, que le déterminisme qui parfois dominait certaines réflexions antérieures excluait. Et comme le hasard est présent évidemment dans votre livre, vous évoquez le non-départ de Briand pour les États-Unis, encore un point qui le rapproche de Clémenceau, c'est un scoop, puisque Clémenceau amoureux a fui aux États-Unis, est parti aux États-Unis dans les années 60 et a hésité à y rester. Imaginez, on ne serait même pas réunis aujourd'hui. Donc, quelle chance qu'ils ne soient pas allés aux États-Unis l'un et l'autre, qu'ils n'y soient pas restés. Je n'avais pas pensé à ce parallèle que l'on peut faire, qui prouve qu'ils sont beaucoup plus proches que parfois l'historiographie ne le dit. Rien n'est jamais sûr à l'avance. Et c'est ce que vous montrez très bien. Et en restituant la diversité des péripéties parlementaires, vous le montrez constamment. Vous le montrez du point de vue du fonctionnement même de ce système, qu'on a beaucoup décrié, qui avait beaucoup d'inconvénients, mais qui était capable, avec des pulsations lentes, d'élaborer des lois qui ne sont pas des lois de l'instant, qui ne sont pas des lois de la communication, mais des lois qui continuent, puisque nous la célébrons, cette loi de 1905, de perdurer. Je crois que ce fonctionnement-là est passionnant. Et du même coup, vous montrez aussi, en montrant les péripéties parlementaires, vous montrez la diversité du rôle des acteurs. Là aussi, c'est très intéressant. Vous dites, au fond, la mémoire collective, car c'est aussi une réflexion sur aujourd'hui et hier, la mémoire. Vous parlez de représentation, c'est fondamental, mais vous mêlez constamment les représentations du moment que vous considérez et les représentations qui sont les nôtres, qui parfois déforment ou ne déforment pas. Et vous montrez bien qu'il y a eu des substitutions d'acteurs. Ça m'a paru extrêmement intéressant. Des orateurs qui avaient pris position de façon importante, qui avaient basculé une majorité, en particulier lorsque vous nous montrez que le centre droit a joué un rôle beaucoup plus important que le manichéisme élémentaire rétrospectif ne pourrait le faire croire. On voit bien comment certains personnages plus connus ont émergé, comme si on effaçait les gens du second rayon. Et je crois qu'il est très important pour les historiens de se mêler aussi de l'histoire des auteurs de second rayon. Les éditeurs, évidemment, ne sont pas toujours d'accord, mais forçons le trait, faisons-le, c'est très important. Et vous contribuez au fond, vous contribuez à cela. Ils surgissent de façon intéressante. Parfois en marge, je vois surgir Delcassé, représenté par Abel Combarieu, le directeur de cabinet du président Loubet, dont vous nous montrez, je ne le savais pas, qu'à l'occasion de la lenteur de ces débats, il proteste, il s'irrite. C'est un des éléments de sa hostilité avec Clémenceau, durable pour la suite. Il va en fait réclamer au président de la République de faire une sorte de coup de force et de faire la Ve République. Enfin, j'évite l'anachronisme. Mais en gros, c'est assez ça. Complexité des débats. Vous montrez aussi comment, très souvent, on peut perdre une bataille au Parlement et gagner la guerre. C'est un élément également intéressant. Et au fond, le sous-titre du sous-titre, c'est l'impossible loi de liberté. C'est évidemment un paradoxe, puisque vous allez nous la montrer qu'elle est possible. Colombo, en somme, se réserve pour le troisième tome. Si j'ai bien compris. Vous nous montrez aussi que restituer cette diversité des possibles, ça ne veut pas dire que tout est possible. Votre effort louable pour défendre les moments heureux, je le salue, je suis un peu sceptique sur cette bataille-là de notre part. Je veux dire, la non-surévaluation des moments d'affrontement et des guerres par rapport aux moments plus paisibles. Au festival de Pessac, du film historique dont je reviens, qui existe depuis 30 ans, il y a une seule édition qui n'a vraiment pas marché du tout. Le thème que nous avions choisi était le bonheur. Ça n'a intéressé personne. Chacun s'organisait, j'imagine, son bonheur personnel. Et cela est assez frappant dans votre cas. La mémoire et le travail des historiens a souvent valorisé les affrontements aux dépens de ce qui peut être consensus. Vous apportez aussi des choses très nouvelles pour éviter le francocentrisme. Vous nous dites, soyons internationaux, c'est-à-dire regardons la France, pas seulement d'un point de vue narcissique, la France regardant les autres la regarder, mais aussi du point de vue des inspirations plus importantes qu'on ne le dit, avec les réserves concernant, par exemple, le Mexique que vous nous donnez, bien sûr. Et ça, c'est aussi très important. Je vous rejoins enfin. Dernier élément de méthodologie sur lequel je voudrais insister en gratitude pour la manière dont vous la démontrez efficace, c'est la différence entre véracité et vérité. Et je suis de ceux qui s'irritent un peu, qu'on finisse par nous dire que, de façon postmoderne, tout devient possible. Non, la marquise est sortie à 5h, elle n'est pas sortie à 5h05. Et le vicomte à 5h10. Et qu'on s'interroge sur la raison pour laquelle on s'intéresse au vicomte et pas à la marquise, ou le contraire, ça c'est important. Et vous le faites constamment, finalement, dans votre livre, ça me paraît net. Voilà, je ne voudrais pas insister trop sur les aspects de méthodologie, mais ça me paraît important. J'ajoute que, en dépit de cette idée constante qui là nous est familière, c'est plus compliqué que vous ne croyez, jeune homme. Ça fait partie aussi de votre méthode, bien sûr. Il n'empêche qu'à la fin des fins, et je terminerai là-dessus, il me semble que finalement, l'histoire et la représentation de l'histoire aboutit néanmoins à quelques idées simples qui peuvent être encore aujourd'hui fécondes. Mais avant d'y venir, un mot sur Clémenceau. Vous m'avez dit qu'il faut absolument que vous parliez de Clémenceau. Je veux bien, comme je savais que Christophe Bellon était là pour parler de Briand, je pensais qu'au moins, de façon mutique, l'équilibre serait fait. Clémenceau, oui, c'est très intéressant parce qu'il est très présent dans cette affaire. On le voit constamment. On le voit en particulier comme roi des formules. Vous nous donnez à la fin du livre un glossaire des formules employées que je recommande à la gourmandise de chacun. Vraiment, c'est très intéressant. Par exemple, le concile de Pion, c'est une formule qui fait Florès, une formule de Clémenceau. Qu'est-ce que c'est que le concile de Pion qui, au hasard des majorités parlementaires, irait déterminer ce que l'on doit enseigner au nom de la République. Et c'est exactement ce que l'on doit évoquer à propos de Clémenceau, et je me permettrai à titre personnel de dire ce qu'on peut aimer dans Clémenceau, c'est-à-dire une vraie confiance dans la liberté, un vrai refus de l'idée que, comme on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on défend, eh bien, il faut l'imposer par des voies autres que la force de la simple liberté. Ça se voit constamment. Vous parlez de continuité. Il est déjà sur cette position en 1881. Des magnifiques débats, magnifiques. Vraiment, rendons hommage à la rhétorique de ces gens-là, avec un peu de nostalgie parfois. Il y a beaucoup de choses qui étaient moins bien, mais ça, vraiment, c'était mieux, l'éloquence parlementaire. L'éloquence parlementaire de 1881, il prend exactement ce type de position, comme vous le savez. Il dit, enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ne font pas confiance à la liberté, qui veulent réintroduire le blasphème? Vous parlez du blasphème. Il est évidemment présent. La loi sur le blasphème, c'est une loi qui est aux yeux. Autrement dit, transférer le blasphème de la royauté, du monarque à la République, c'est insupportable pour des gens comme Clémenceau. Vous n'avez pas confiance, dit-il, vous n'avez pas confiance dans la force de la liberté. Et ça continue, et en particulier, vous n'avez pas tellement parlé de ça, parce qu'on ne peut pas parler de tout, la partie de débat sur l'enseignement est fondamentale, et on voit bien cet affrontement entre deux conceptions, en 1900, 1901, 1902, entre Clémenceau et Jaurès. J'avais, en 1980... 14, au moment des manifestations sous Balladur pour la laïcité, j'avais publié un article dans Le Monde où j'évoquais les positions du père Cloupet et de Clémenceau et de Jaurès. Je disais Jaurès a une position qui est une position qui n'est pas une position à nos yeux souhaitable, c'est-à-dire le monopole scolaire. Et Clémenceau répondait concile de Pion. Ça m'a valu, par parenthèse, d'être réveillé à 7h du matin par Madeleine Robériou, que j'aimais beaucoup, mais ce n'est pas mon heure. Et qui m'a dit, comment est-ce que vous pouvez avoir écrit ça, que Clémenceau était plus tolérant que Jaurès? Je lui ai dit, écoutez, regardez l'article de la Dépêche de Toulouse de Jean Jaurès de telle date. Il ne m'a pas rappelé. Je ne cite cette anecdote que pour montrer qu'il y a vraiment là des positions qui sont différentes. Il y a chez Clémenceau un goût pour l'Uchronie. J'ai salué votre salut à l'Uchronie, qui là aussi est pour nous quelque chose, comme vous le dites très bien. Vous dites que la France en est moins occupée que les États-Unis, un peu moins, mais quand même, on s'y intéresse beaucoup. Vous savez, l'Uchronie de Renouvier. Renouvier, magnifique intellectuel organique de la pensée républicaine, déjà sous l'Empire, qui a développé cette idée-là. Elle est extrêmement instructive. Et vous faites au fond, ici ou là, de l'Uchronie. Et on en est content. Que serait... J'ai déjà parlé de Briand aux États-Unis, mais en fait, il n'est pas resté, je crois. Non, il n'est pas allé. Donc, et Clémenceau s'y intéresse. Je n'ai pas le temps, mais je pourrais citer une belle citation de Renouvier à cet égard. J'ai quand même le temps. La raison est naturellement une et les religions sont naturellement multiples. Renouvier, inventeur de l'Uchronie. La raison, dans sa force et son unité, que l'État représente, doit s'appliquer à laisser aux religions leur pente à se diviser, non pas pour les ruiner, car elles dureront autant que le légitime penchant de la nature humaine à porter sa croyance où ne vont ni son expérience ni son intuition, mais pour leur refuser les moyens de contrainte ou de pression illégitime à l'aide desquels elles tentent de se procurer une unité artificielle. Unité artificielle, diversité des religions. J'y pensais quand vous évoquiez Notre-Dame de Paris. Je me rappelle que quand Defferre est mort, on a fait à Marseille un service multiconfessionnel, que quand le président Mitterrand est mort, le cardinal Lustiger a refusé qu'à Notre-Dame, on est au cœur du débat, on fasse un service qui soit multiconfessionnel. Je parle sous le contrôle de Jean-Louis Bianco, qui fut son collaborateur intime et précieux. Clémenceau, il avait 23 ans au moment de Cantacura et du Syllabus. Donc il est vraiment nourri par ça. Mais en même temps, il dit « faites confiance ». Il le dit en 80, il le redit en 1905. « Faites confiance à la liberté ». Et au fond, ces positions fameuses sur la question des inventaires, dont vous nous dites qu'on a parfois caricaturé le déroulement, ça ne vaut pas un mort, est assez significative. Alors, en fait, il est, dit-il, contre les esclaves révoltés qui veulent déplacer les tyrannies au lieu de l'éliminer. C'est une des citations de votre glossaire. Il parle aussi du jésuitisme retourné, ce qui n'est pas mal. Et puis, il parle évidemment des femmes. Je m'attarde un instant sur les femmes parce que vous en avez parlé à juste titre. La réflexion sur la place de la femme dans la société est très présente dans ces débats et c'est un des éléments qui m'a beaucoup frappé dans votre livre. Le point de vue de Clémenceau est parfois caricaturé sur les femmes aussi. Évidemment, toute cette génération de gens de gauche était persuadée, ils n'avaient pas tort probablement d'ailleurs, que si on avait donné c'est pas une justification, mais c'est une explication, on avait donné le pouvoir aux femmes, pendant au moins une génération, le fléau démocratique aurait été porté davantage vers la droite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sous la 4e République. Après, ça a été dépassé, mais pendant une génération au moins. Donc c'était une chose qui était très, très présente. Et c'est ça que redoutait Clémenceau. Mais en même temps, je vous renvoie aux écrits de Clémenceau, toute sa vie sur les femmes, sur l'indignation que suscitait en lui la situation que l'on faisait, particulièrement à la bourgeoisie, à la femme, dans les foyers et dans la rue, pour que, mais ce sera un sujet qui exigerait une conférence entière, pour que je me félicite que vous ayez évoqué les femmes, pour me permettre de parler de Clémenceau et des femmes, même trop brièvement. Je terminerai en disant que, qu'en somme, on se réjouit que vous interveniez dans le débat public. Vous y intervenez par ce gros livre, peut-être... Faudra-t-il du temps pour que par osmose tout ça pénètre la connaissance, le civisme. Je suis toujours très optimiste. Je crois que les livres, même gros, même dès lors qu'ils sont forts et qu'ils sont subtils, et celui-là est à la fois fort et subtil, finissent par irriguer progressivement la connaissance des choses. Et puis en plus, vous aidez cela en faisant des livres d'intervention. Et cela, je crois que non seulement on ne peut pas vous en blâmer, mais je pense presque que c'est une sorte de devoir pour nous autres, que la nation fait vivre à peu près convenablement, d'intervenir. Et j'ai beaucoup aimé votre livre, je le cite en passant, La laïcité, expliqué à M. Sarkozy et à ceux qui écrivent ses discours, paru chez Albin Michel en 2008. C'est un livre qui m'a paru très pertinent. Je n'insiste pas là-dessus. Et sur l'infâme discours du Latran de l'antépénultième président de la République. L'avant-dernier. En somme, je dirais que après vous avoir lu, dans la complexité des choses, on en revient finalement à ce qui me paraît assez simple pour aujourd'hui, assez simple, mais qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut que le chemin de la laïcité républicaine se dessine toujours entre deux périls, c'est-à-dire qu'on s'en serve pour stigmatiser, et là on est complètement en contradiction avec les acteurs majeurs, Clémenceau, Briand et les autres, pour stigmatiser une religion quelle qu'elle soit, mais en même temps, l'autre péril est de renoncer à l'inflexibilité de la laïcité et de ses principes au nom de je ne sais quelle culpabilité à l'égard d'une religion parmi d'autres. On sent bien actuellement ces deux périls-là. Vous nous offrez, cher Jean Bobéro, un vade-mecum pour nous en protéger. Je vous en remercie.
Bien, c'est vraiment pour moi, cher Jean, un grand plaisir et un grand honneur d'intervenir ici. dans cette maison des sciences de l'homme, dirigée par notre ami Michel Wieworka, pour évoquer vraiment un livre tout à fait magnifique, en effet. Et un livre qui vient, d'une certaine manière, couronner un parcours déjà, on le sait ici, extrêmement riche, composé au fond de trois grands pôles. Tu nous as proposé déjà, fin des années 80, début des années 1990, une histoire globale de la laïcité française. Tu venais alors d'accéder à une chaire nouvellement créée, la chaire d'histoire et sociologie de la laïcité, et déjà tu remplissais ton contrat en nous proposant plusieurs livres sur le grand cours de l'histoire qui a marqué la relation entre les églises, l'église catholique en particulier, et l'État depuis 1789. Puis il y a eu un deuxième pôle dans ton travail qui visait à nous proposer une histoire comparée de la laïcité, notamment dans des travaux comme « Laïcité sans frontières » ou « Laïcité, laïcité » où déjà tu nous proposais une typologie des grands régimes de laïcité. Il y a une définition globale de la laïcité articulée autour du principe de liberté, du principe de neutralité, mais tu montres que selon les latitudes, selon les longitudes, on n'applique pas ces principes de liberté et de neutralité exactement de la même manière. Il y avait déjà là un effort typologique, une réussite typologique tout à fait importante pour ceux qui se piquent de travailler sur la question. Et puis, comme le disait à l'instant Jean-Noël Jeannet, il y a aussi chez toi la volonté de faire une histoire immédiatement contemporaine de la laïcité. Et on voit bien qu'à travers des textes comme la laïcité falsifiée, par exemple, ou la laïcité expliquée à M. Nicolas Sarkozy, il n'y a plus au fond que de simples livres d'intervention. Il y a aussi une véritable enquête sur ce qu'est devenue la laïcité à partir des années 1990-2000. Une laïcité qui, très souvent, quitte les rivages de la laïcité procédurale pour embrasser ceux de la laïcité identitaire. Alors, ce livre dont nous parlons aujourd'hui est un ouvrage qui modifie d'une certaine manière l'angle de vue. Tu as souvent travaillé sur la moyenne ou la longue durée, et tu nous offres ici un regard sur une période finalement très courte de notre histoire, 5 ans, 1903-1908. Une période très courte que déjà d'autres historiens avaient voulu saisir. Je pense ici à Maurice Larkin, je pense ici à Jean-Marie Mayer, je pense encore à Émile Poulain. Leurs œuvres sont tout à fait considérables, mais tu apportes plus. Au fond, avec une précision de notaire, d'entomologiste, sur les 5 années, au jour le jour, nous suivons la fabrique de ce que le Conseil d'État appelle la clé de voûte de la laïcité, la loi de 1905. Alors, clé de voûte de la laïcité, loi de 1905, je rejoindrai tout à fait ce que disait à l'instant Jean-Noël Jeannet, quand il évoquait que tu te situes au fond dans une histoire qu'on pourrait appeler une histoire politique qui ne fait jamais l'impasse, sans doute sur les structures qui peuvent expliquer un certain nombre de comportements, sur les grands déterminismes de l'histoire, sociaux, économiques, culturels, mais tu réhabilites à travers ce texte ce que René Raymond déjà voulait placer au cœur même de sa propre réflexion, tout à la fois l'acteur et l'événement. L'acteur et l'événement dans un système plus global, mais l'acteur et l'événement tout de même. Et c'est un point, je crois, tout à fait intéressant, à partir duquel tu développes, me semble-t-il, 3 points tout à fait essentiels. Le premier point vise à s'interroger, c'est d'une certaine manière une sorte de mystère sociologique, sur la réémergence de l'hypothèse séparatiste. Alors, nous savons tous ici que depuis les années 1850-1860, il y a dans tous les programmes républicains l'indication qu'il faut absolument séparer les églises, mais on parle surtout de l'église catholique et de l'État. Le concordat, sans doute, mais il faut séparer. Le problème, c'est que, du côté du camp républicain, on promet, mais on ne tient pas la promesse, de très nombreuses propositions vont être portées sur le bureau de la Chambre des députés, sur le bureau du Sénat, dans les années 1880-1890. Ces propositions n'aboutissent pas. Elles n'aboutissent pas parce que l'on considère que le concordat doit demeurer, et Jules Ferry va même très loin, estimant que ce concordat est au fond une des formes de la laïcité. Alors pourquoi refuse-t-on de passer à la séparation alors même qu'on la promet ? Jean Bovéreau nous l'explique. Il nous l'explique en nous disant qu'il y a deux raisons majeures. La première raison, c'est que probablement le peuple n'est pas mûr pour passer d'un régime concordataire à un régime séparatiste. C'est Jules Ferry, je ne crois pas que tu le cites, Jean, qui, dans une lettre à son épouse, écrit qu'il est l'élu d'un peuple qui aime ses reposoirs, qui aime ses processions. Comment pourrait-on couper le lien avec une Église qui, à ce point, représente l'essentiel national ? Et puis un second point qu'évoquait à l'instant Jean-Noël Jeannet, cette idée que le Concordat, lorsqu'il est saisi à partir des articles organiques qui l'ont accompagné, ce Concordat est un magnifique instrument de contrôle d'une Église dont on escomptait, c'était le grand pari de Portalis, dans les années 1801-1802, qu'elle rejoindrait les Lumières. Et c'est tout le rebours qui s'est produit, cette idée que l'Église, de décennie en décennie, s'est enfermée chaque fois davantage dans une intransigeance dont elle ne sort pas. Quanta cura, 1864, le syllabus, la même année, cette idée que jamais le pontife ne pourra se réconcilier avec la liberté, le progrès, la civilisation moderne. Comment, dans ces conditions, pourrait-on donner à l'Église une liberté qu'on ne contrôlerait pas ? Alors, il se trouve que c'est le grand schéma qui va s'imposer dans les années 1880-1890, ce pourquoi on ne fait pas la séparation. Et puis, Jean nous démontre que quelque part, autour de 1902-1903, l'idée revient. Et cette idée va faire souche et aboutir bientôt à la loi de 1905, suivie par les lois de 1907 et de 1908. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est une force tout à la fois des acteurs et de l'événement. Un événement qui peut se décliner en trois temps, la querelle des congrégations, la guerre des congrégations, l'affaire Dreyfus, la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Cet enchaînement d'événements inattendus va probablement conduire les républicains à passer de l'autre côté de la frontière. Ils étaient hier massivement concordataires, les voici qui deviennent séparatistes. Alors ça, c'est un premier élément. On se met d'accord désormais sur l'idée que probablement la séparation est inéluctable. Mais comment la réaliser ? On va la réaliser d'une certaine manière à partir de positions qui sont des positions très divergentes. On a, et c'est un point qu'évoque magnifiquement notre ami Jean, on a l'habitude de penser la réalité politique du début du XXe siècle à partir, au fond, d'une situation agonistique extrêmement simple, binaire. D'un côté, le bloc catholique, de l'autre, le bloc républicain. Ce n'est pas ainsi que les choses se présentent. Et l'on voit bien que le bloc républicain est lui-même divisé en tendances souvent irréductibles. Les unes par rapport aux autres. Il y a, Jean nous le rappelle, ceux qui rêvent encore de renouer avec la déchristianisation de la Convention révolutionnaire. Il y a ceux qui estiment qu'il faut établir une séparation, mais une séparation qui serait contrôleuse, qui serait surveillante, qui remettrait l'Église à sa place et réduirait le prêtre à n'être qu'un serviteur du culte ou de la sacristie. Et puis, il y a des séparations plus généreuses, celle de Clémenceau, mais aussi celle de Briand, qui prend en compte les droits collectifs de l'Église. Et on voit que tout cela nous donne un éventail extrêmement divers de positions, des positions qui vont parfois converger, souvent s'affronter, dans cette période qui court de 1903 à 1905. Il faut ajouter que du côté du bloc catholique, on a souvent tendance à penser que de Rome, Léon XIII d'abord, Pie X ensuite, disent la vérité. Oui, une fois que Rome a parlé, la cause est entendue, dit-on. En fait, elle n'est jamais réellement entendue. Et on voit bien qu'à la base, pour s'adapter aux formes de la pierre sociale, les catholiques, parfois, peuvent jouer avec les discours romains. On va voir, par exemple, Jean nous le rappelle, au cours de l'année 1903, un certain nombre de députés catholiques défendre l'idée de séparation, contre les textes mêmes de Léon XIII, avec cette idée qu'il s'agit de rompre l'harmonie républicaine, de briser l'alliance entre les républicains et d'introduire du bruit dans ce que l'on peut considérer comme étant les porteurs de la force du progrès. Il se trouve là que nous sommes confrontés à ce que Jon Elster appelle la force constructive de l'hypocrisie, cette idée que ces nationalistes, en effet, entendent remettre en cause les alliances possibles à l'intérieur du bloc des gauches ou du bloc de défense républicaine. Et puis, il y a aussi, tu l'évoquais à l'instant, ces catholiques de centre-droit qui vont accepter de négocier pour sauver ce qui peut l'être, pour gagner des libertés là où ils craignent, en effet, qu'un gallicanisme contrôleur s'impose dans la société française du temps. C'est donc un deuxième élément très important, mais je crois que le plus important, peut-être, c'est ton troisième apport, qui nous amène à réfléchir sur la théorie de la décision politique. Théorie de la décision politique, et quand j'ai lu ton livre, Jean, j'ai immédiatement pensé à la théorie sociologique de Jon Elster, quand il travaille, il a été professeur au Collège de France, quand il travaille sur le problème de la décision parlementaire. Et Jon Elster établit une typologie de la prise de décision. Comment se prennent les décisions à l'intérieur d'un Parlement ? Et il y a au fond deux systèmes. Le premier système, c'est le système de la délibération. La délibération, dit-il, est une conversation. Et l'on voit que dans ce cadre, la délibération met aux prises des acteurs rationnels qui échangent des arguments. Puis, on dit, mais ça n'est pas comme cela, toujours, que les décisions se prennent. Il peut y avoir aussi un autre modèle de décision fondé sur ce qu'il appelle la négociation. Et la négociation ne renvoie pas dans sa finalité à la poursuite d'un consensus, mais simplement, modestement, à la construction d'un compromis. Et cette négociation, très importante dans la théorie sociale de Jon Elster, vise à considérer qu'on n'échange pas des arguments, qu'on échange d'abord dans une arène parlementaire des menaces. Et ce que nous dit notre ami Jean Bovéro, c'est précisément que ce qui s'est passé entre 1903 et 1905 s'est souvent constitué sous l'égide de la menace, sous le surplomb de la peur. Perspective obésienne au fond, ce qui nous déterminerait, nous, qui nous croyons être des citoyens de bonne alloi, dans le cadre d'une arène démocratique pacifiée, ce qui nous détermine est moins la raison que la passion. Et l'on retrouve ici un point tout à fait essentiel. Nous, marqués par la sociologie durkheimienne, nous avons souvent travaillé à partir de l'idée d'une rationalité des comportements. Ce que nous montre Jean, rompant au fond avec une tradition très française, c'est que la passion, l'émotion, la psychologie, au fond, peut jouer des rôles tout à fait essentiels pour déterminer une politique publique. Alors, voilà des éléments, je crois, extrêmement importants pour que nous livre notre ami Jean Bovéro dans son ouvrage. Et je voudrais, puisque c'est notre rôle ici, lui adresser, au fond, trois grandes questions. La première question porte précisément sur le problème de la négociation, sur le problème de la conversation, sur le problème de la délibération. Je crois que, en effet, tu attaches beaucoup d'importance à ce schéma obésien de la peur qui, au bout du compte, conduit à la raison. Et moi, je me suis demandé tout de même, en lisant les textes si nombreux que tu nous donnes, les verbatims si nombreux que tu nous offres, verbatim de Clémenceau, verbatim de Briand, verbatim de Jaurès, et même ceux, au fond, de Viviani ou de Vaillant, je me suis demandé si l'on ne pouvait pas voir les choses d'une autre manière et réhabiliter, au fond, la place de l'argument dans les délibérations des années 1902-1905, peut-être davantage que tu ne le fais, toi qui insistes tellement sur la dynamique de la passion dans la production de la paix civile. Il me semble qu'il y a, de ce point de vue, deux éléments peut-être qu'il faut intégrer dans le cadre de la délibération parlementaire que tu décris. Le premier élément, c'est que très souvent, de manière au fond très kantienne, les acteurs de ces années-là, pas tous, mais une partie d'entre eux, placent le point de vue de l'autre dans leur horizon de sens. Au fond, se mettre à la place de l'autre. L'autre n'est pas simplement le moyen de mon action, mais aussi, peut-être, une des fins de mon action. Et on voit bien que chez Briand en particulier, il y a cette idée que je ne peux pas aller trop loin parce que si j'allais trop loin, je briserais la dignité de l'autre. Ça, c'est un premier élément, je crois, qui permet, me semble-t-il, de nuancer peut-être la dynamique passionnelle que tu évoques. Et puis, il en est un second, c'est la force de la rationalité. Jean-Noël Jeannet évoquait tout à l'heure la capacité des hommes de la République à s'ouvrir aux expériences extérieures, aux expériences étrangères, l'impact de la séparation mexicaine, l'impact de la séparation américaine. Est-ce qu'il n'y a pas là, précisément, l'indication que nous sommes d'abord sur le territoire de l'argument avant d'être sur le territoire de l'émotion ? Comparer les expériences afin d'en tirer le meilleur pour la société qu'on essaye de construire. Deuxième question qui m'est venue à l'esprit en te lisant, tu réhabilites de manière magnifique tout à la fois l'événement et l'acteur. Est-ce qu'on ne pourrait pas accorder cependant au système toute sa place? Jean-Noël Jeannet évoquait tout à l'heure l'éloquence. Il me semble en effet que ce Parlement-là, c'est le Parlement de l'éloquence. Pourquoi est-ce que c'est le Parlement de l'éloquence? Ce n'est pas nécessairement parce que ces hommes de la République sont des avocats ou des professeurs qui manient la langue française, qui ont le sens des humanités. C'est aussi parce que les groupes parlementaires sont dans un statut incoatif. Ils viennent d'apparaître, les partis politiques viennent d'apparaître, pas de discipline partisane. Et c'est précisément à la faveur de l'échange d'arguments que se constituent les groupes, que se constituent les consensus parlementaires, de sorte qu'ils peuvent toujours être rénovés, toujours être renouveler, toujours être reconfiguré à la faveur précisément d'un discours argumenté qui viendrait bouleverser l'existant. Puis enfin, j'aurais peut-être une troisième question qui portera sur le problème de la démocratie. En sciences politiques, il est un auteur important qui s'appelle Lispert, qui est un néerlandais, qui oppose les démocraties consensuelles et les démocraties conflictuelles. Les démocraties consensuelles, ce sont les démocraties, nous dit-il, du nord de l'Europe. Et il classe évidemment la France du côté des démocraties conflictuelles en estimant que ce qui nous caractérise, c'est précisément l'aspect polémogène de notre propre vivre ensemble politique. Moi, j'ai une interrogation. Si on raisonne de cette manière-là, et d'une certaine manière, parfois, dans ton texte, tu mets en évidence des menaces réciproques, comme s'il existait en effet deux France. Il existe deux France. Mais sont-ce des France réellement en situation de conflit absolu? La question est la suivante. Est-ce que le concordat napoléonien n'a pas amené l'Église catholique à se discipliner? Et on le voit, me semble-t-il, dans les textes d'un Léon XIII et même dans les textes d'un Pie X, quand il dit qu'il faut engager la bataille sur le terrain du droit commun, en évitant précisément des violences qui viendraient rompre totalement le lien civique. C'est une question que je voulais te poser de ce point de vue. Est-ce qu'il n'existe pas, au-delà de cette dynamique, on retrouve la question que je te posais au départ, cette dynamique des passions opposées, est-ce qu'on ne trouve pas au fond déjà, au début du XXe siècle, l'idée d'une sorte de compromis préalable à la discussion qui tiendrait dans le fait que pour continuer à faire nation, il faut éviter la violence. Voilà un certain nombre de points que je voulais te soumettre, cher Jean, tout en te disant une nouvelle fois toute mon admiration vraiment pour ce magnifique livre.
Alors, faut que je réponde parce que sinon on va dire que je défausse, mais je vais le faire très très brièvement parce que il faut quand même que la salle puisse avoir la parole. Quand jeudi dernier on était au jury d'une thèse commune, je t'ai dit ah ben mercredi prochain je vais être en soutenance de thèse. et ça n'a pas manqué et tant mieux. Bon, alors je voudrais d'abord quand même commencer par Jean-Noël. Bon, et effectivement j'avais pas pensé à, je savais que Clémenceau était allé aux États-Unis, qu'il avait pris femme aux États-Unis. Mais je n'avais pas pensé à ce parallèle entre l'espoir de Briand et à chaque fois, effectivement. Bon, mais c'est de dire, à chaque fois, il y a des chemins possibles et ça conduit à réfléchir aussi quels chemins ont été ratés. Et puis, quels chemins ont été réussis. Je pense qu'il faut se mettre quand même dans cette attitude de se dire les gens sont devant des bifurcations et nous, on sait quel chemin ils ont pris, mais eux, ils ne le savent pas. D'ailleurs, Delcassé, justement, que vous rappeliez l'importance, disait qu'il détestait les historiens parce que les historiens venaient après la bataille. Et puis donc, il disait, ben oui, ça s'est passé comme ça, ça devait se passer comme ça. Mais l'homme politique, lui, il est face à l'inconnu et il doit prendre des décisions sans savoir ce qui va se passer et sans savoir quelles sont les multiples actions et réactions qui vont lui tomber dessus. Bon. J'ai essayé de résumer ça en prenant une idée d'ailleurs de Roger Lescar, en disant c'est l'avenir qui est derrière nous, hein, parce qu'il nous tombe dessus et on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, et le passé qui est devant nous, parce que le passé, on pense qu'on peut le connaître, qu'on sait ce qui s'est passé, etc. Bon. Alors, la vraie confiance en la liberté, oui, moi, c'est... évidemment, j'avais déjà lu Clémenceau, etc., mais en écrivant ce bouquin, ça m'a vraiment frappé. La manière dont Clémenceau relie une liberté qui n'est pas justement une liberté guerrière, une liberté de combat, une liberté où moi je suis le camp de la liberté et vous, comme vous êtes mon adversaire, vous ne pouvez pas vous réclamer de la liberté. Non, les libertés vraiment pour tous, parce que tout le monde est faillible. Il y a chez Clémenceau une représentation de la faillibilité qui, moi, m'a impressionné. Parce que je ne l'avais pas autant perçu, disons, avant, même si je connaissais son fameux discours à la liberté, pas celui de 1902, celui de 1903, etc. Mais là, vraiment, et c'est un thème récurrent, il écrit tous les jours dans l'Aurore. Il faut dire quand même que c'est une belle époque, puisque il écrit dans La Dépêche de Toulouse aussi, et Jaurès, pareil, écrit dans L'Humanité, dans La Dépêche de Toulouse, Briand écrit aussi. Buisson écrit aussi. Les grandes personnalités politiques sont en même temps des grands éditorialistes. Et ça c'est vraiment un vrai bonheur de les lire. Bon. Mais chez Clémenceau, il y a vraiment une tension parce que comment être pluraliste en incluant dans ce pluralisme les ennemis du pluralisme ? C'est vraiment un dilemme et tout le temps, navigue entre deux périls. Hein, prenant le risque, mais en même temps, il veut que ça soit pas sans garantie non plus, hein, à certains moments. Bon. Donc, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est contre l'ajout de l'article 4 de Jaurès, parce que là, il pense qu'on en donne trop aux ennemis de la liberté, et donc ils vont pas parler de bourgeois de Calais, de socialistes papalins, etc. Il fait pas dans la nuance comme d'habitude, à tel point que Jaurès, ne sachant pas quoi trop lui répondre, lui dit « Si c'est comme ça, alors qu'on a finalement le but commun, je ne vais plus vous parler. » Bon, et à ce moment-là, Clémenceau rétrograde et dit « Mon cher ami Jaurès, j'ai beaucoup d'estime pour vous, etc. Et, » bon, mais bon. Alors, ce qui est vrai, c'est que Jaurès, dans cette période, enfin, dans la période combiste, ne s'en tire pas à son honneur. Et c'est probablement lui qui oblige Briand à rétrograder face au projet de Combes. Il défend en tout cas au moment de l'affaire des fiches Combe jusqu'au bout. Bon, et Briand dit bon ben au début 1905, je lui ai obéi pour la dernière fois et puis maintenant je prends mon envol et bon. Voilà, Jaurès est un homme comme les autres et il n'y a pas de grand homme pour un historien comme il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Alors pour en venir à tes questions, il me semble que la place de l'argument y est et justement que j'oppose la commission où, bon, Christophe Bellon le sait comme moi, il y a de l'argument. Il y a ce que j'appelais une dynamique de groupe, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'écoute les uns les autres et on prend en considération ce que dit l'autre. Et même Allard, à un moment, est choisi par la gauche pour dire à la droite que voilà, il y a une dignité à respecter et qu'on va la respecter. Et ce qui est intéressant, c'est que Allard accepte de jouer ce jeu, d'être le porte-parole de la gauche vis-à-vis de la droite. Bon. Donc il y a de l'argumentation, mais ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est justement la distance entre cette commission qui raisonne, qui argumente, qui est dans un débat rationnel, et le peu d'écho que la presse lui donne, qui fait que personne n'est au courant que le projet aboutit. Personne n'a lu le projet, d'ailleurs, ou presque personne. Et l'article de Dossonville que j'ai cité en bonus, parce que j'ai dû enlever pas mal de choses, même si le bouquin est gros, il y en a un passage que je n'arrivais pas à me résoudre à enlever. En même temps, ça cassait le récit. Donc, je l'ai restitué. Je l'ai restitué en bonus, comme les DVD offrent des bonus. Bon. Et là, on voit bien que Dossonville, qui est un académicien orléaniste libéral, catholique, mais ne craignant pas la séparation et voulant justement dire aux évêques qu'ils n'ont pas à la craindre, il essaye de comprendre ce qui s'est passé à la commission, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que en lisant les journaux, on n'arrive pas à reconstituer ce qui s'est passé à la commission. Par contre, alors, l'affaire Le Nordez, l'affaire Le Camus, les deux évêques qui sont en délicatesse avec Rome, ça, alors, c'est les grands titres des journaux tout le temps. C'est-à-dire que il y a déjà à l'époque, et je crois que ça n'a pas diminué depuis, une surévaluation de tout ce qui est passion et émotion au niveau de la mise en scène médiatique. Alors, c'est l'âge d'or de la presse à ce moment-là. Maintenant, il y a d'autres canaux. Au dépens de l'argumentation rationnelle qui existe, effectivement, je ne le nie pas, et qui construit de l'avenir, et qui construit de l'avenir avec d'autant plus de difficultés que, justement, la passion occupe le terrain, je dirais, occupe le terrain de la mise en scène médiatique. Alors, effectivement, le système a sa place, les groupes parlementaires viennent d'apparaître, la gauche démocratique au Sénat, par exemple, a comme règle que chacun vote en son âme et conscience. Bon. Ceci dit, bon, il y a quand même la délégation des gauches qui essaye de verrouiller les choses. Là encore, c'est formidable, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que la délégation des gauches devait se réunir le matin avant l'élection de la commission, et elle devait se réunir pour que tous les membres de la commission soient de gauche et séparatistes. Et elle n'y arrive pas, si bien qu'on arrive à une commission 17-16, mais à mon avis, la loi de 1905 n'aurait pas existé si les 33 membres de la commission avaient été des membres du bloc des gauches. Parce que, justement, le travail de Briand, comme tu dis, qui est de prendre en considération l'autre, il y a des gens qui ne sont pas dans cette optique et qui poursuivent leur propre jeu sans trop se préoccuper de l'autre. Et malgré tout, c'est le fait que le rapport de force 17-16 n'est pas tellement en faveur de la gauche, puisqu'il suffit de quelques absences pour que la majorité change, qui oblige un certain nombre de gens à être raisonnables en dépit du fait qu'ils sont passionnés. Mais en même temps, c'est vrai que dans l'anticléricalisme, il y a toujours cette tension entre la passion et la rationalité, puisque les anticléricaux veulent être des gens des Lumières, veulent être des gens éclairés, veulent être des gens rationnels. En fait, comme tout le monde, ils ont leur passion, mais justement, des fois, ils arrivent à se contrôler parce qu'ils ont cet idéal de lumière. Et bon, ce qui est retenu quand même, ça a été plus, justement, in fine, le fait que l'argumentation a triomphé. Et j'ai voulu montrer à quel point ça avait été difficile que l'argumentation et le rationnel triomphent sur la passion. Effectivement, il y a un effort du côté catholique de se placer sur le plan du droit constitutionnel, mais en même temps, on intègre la République pour la changer de l'intérieur. C'est dialectique. Pour beaucoup de républicains, c'est d'autant plus dangereux. Les catholiques sont devenus d'autant plus dangereux qu'ils ont réintégré les règles du jeu républicaines pour essayer de les changer. Et là, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le temps, on retrouve ça. C'est-à-dire que les bravades de l'autre permettent de se faire peur et de faire peur aux autres. Bon. C'est-à-dire que les abbés démocrates disent que s'ils avaient 10 journaux comme l'Ouest Éclair, ils seraient les maîtres de la France. Et évidemment, la gauche dit, vous voyez, ils espèrent avoir 10 journaux et être les maîtres de la France. Donc l'Ouest Éclair, qui se veut justement dans le jeu constitutionnel, est d'autant plus dangereux que les monarchistes, puisqu'ils jouent dans la règle du jeu, mais en voulant changer le rapport de force. Bon. Donc, loin de calmer le jeu, ça le calme d'une certaine manière, mais d'une autre manière, ça suscite de l'inquiétude.
On ne va pas se séparer sur l'inquiétude. On peut prendre encore une dizaine de minutes pour répondre à quelques questions qui pourraient provenir de auditoire après ce superbe moment intellectuel. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre 4, 5, 6 interventions, l'une derrière l'autre, et ensuite nos trois intervenants auront le mot de la fin. Eh bien, on va donner la parole à Dora, si elle le souhaite, en premier.
Alors moi, ça va être des remerciements à l'attention de Monsieur Jean Bobéro, parce que bon, a priori, la laïcité n'est pas mon domaine d'intervention, c'est plutôt la laïcité coloniale, étant donné que je suis spécialiste de l'islam en France. Et j'ai beaucoup appris aux côtés de Jean Bobéro et je tenais simplement à le remercier. Et ça va me permettre de continuer pour les autres tomes, d'aller fouiller aux archives et de trouver de nouvelles choses. Voilà.
Bonsoir, Jean-Marc Chiappa de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Merci à plusieurs titres, déjà parce que je vais pouvoir acheter ce livre que mon libraire habituel s'obstine à ne pas livrer, peu importe. Mon cher Jean Bobéro, vous avez les excuses de mon camarade, ami et complice Christian Echen, qui est retenu en province, qui se faisait une joie de pouvoir être des nôtres, mais c'est comme ça. Trois remarques les plus brèves possibles et deux questions. Première remarque, bien évidemment, cela a déjà été dit, ce qui me semble extrêmement important dans votre exposé et dans le travail, contre tout déterminisme. Les choses ne sont pas obligées et la loi de 1905 n'était pas obligée, d'autant plus qu'on peut dire que toutes sortes d'obstacles de tous bords étaient devant elle. Il a été évoqué en passant l'élu du Var à l'art, ce n'est rien de dire qu'il était opposé à la séparation telle qu'elle était conçue. Et je vous recommande vivement de relire les textes de ce député. Ils sont relativement, je ne sais pas si on peut dire, parce qu'il faut se prémunir de tout jugement de valeur, entre le grotesque et l'effrayant, mais quand même. Et ce n'est pas toujours un hasard si, dans les années 30, il s'est retrouvé, comment dirais-je, contre le droit de vote des femmes au Sénat. C'est quelque chose d'assez significatif dans sa démarche, qui est une démarche de fanatique, il faut le dire. Ça, c'est la première remarque. La seconde, vous avez eu l'intelligence, Jean Bobéro, de ne pas, au moins dans votre exposé, mentionner à la fin les débats contemporains. Et je pense que c'est extrêmement pertinent parce qu'on entend tellement de choses dont on ne sait si c'est la malveillance, l'ignorance ou l'outrecuidance qui prédomine, qu'il nous faut, les uns et les autres, essayer de raison garder et de revenir au texte et à l'évolution des textes. Troisième remarque, il a été mentionné, je rejoins un peu ce qu'a dit Philippe Portier dans la discussion, la question du Parlement. Très souvent, on entend dire que la loi 1905 est une œuvre de compromis. Personnellement, et mes petits camarades de jeu avec moi, nous récusons cette formulation. C'est une œuvre parlementaire. Ce n'est pas une œuvre parlementaire au sens de troc, au sens de « je te donne ceci », etc., mais au sens d'élaboration collective. Et la remarque qu'il faudrait se faire, je ne sais pas jusqu'où on peut la pousser, dans quelle mesure le parlementarisme, ce qui a été relevé, etc., qui est si exceptionnel, le parlementarisme et la loi de 1905, et les débats de la loi de 1905, ne sont-ils pas consubstantiels ? Je termine. Si on m'avait indiqué le temps, j'aurais limité. Donc, j'abrège et je dis, mais il n'y a aucun problème, est-ce que le parlementarisme et la loi de 1905 ne sont pas consubstantiels, je dirais, pour utiliser un terme commun à François Furet et à Saint-Augustin ? Mes deux questions sont les suivantes. La question de la liberté de conscience, est-ce qui n'apparaît pas dans les premiers débats, dans les premiers projets, pardon. Est-ce qu'elle est dans la loi de manière par effraction, je dirais, ou elle est significative et une volonté délibérée ? Deuxième question, que vous comprendrez évidemment, la place des historiens de la Révolution française, on a parlé de Allard, on peut parler de Mathier, on peut parler de James Guillaume, bien évidemment de Jaurès, dans les discussions. Pardon ? J'ai fait un lapsus avec l'orateur précédent, je m'en excuse. Allard, Mathier, James Guillaume, et bien évidemment Jaurès, dans quelle mesure leur expérience a-t-elle contribué à la discussion, notamment par rapport à la déchristianisation, qui n'était pas, et ce sera mon dernier mot, mon cher Philippe Portier, une œuvre de la Convention nationale ?
J'avais une question qui concerne justement les débats actuels sur la laïcité, et notamment vis-à-vis de l'islam. Je lis par-ci et par-là que du temps de la laïcité, il n'y avait pas de musulmans en France. Comme vous disiez que la République avait besoin d'histoire, et j'ai trouvé ça très joli à entendre, ma question est la suivante. Comment se fait-il que, lorsque la laïcité dans les colonies ou les départements d'outre-mer, puisque à l'époque, le Maghreb était, il y avait des Français quand même, n'a pas été réclamée. Et aujourd'hui, est-ce que ça peut être une conséquence des problèmes que nous vivons actuellement, au point de vue laïcité ? Merci.
Une question pour Jean Bobéro et une pour M. Jeannet. Jean, est-ce que puisque tu es une autorité mondiale sur le sujet, est-ce que tu peux nous éclairer sur la question de savoir, et ça son importance pour la loi de séparation, si le président Combe a effectivement consommé la relation torride qu'il a eue avec la princesse Bibesco, qui était supérieure du Carmel d'Alger ? Et Monsieur Jeannet, est-ce que je vous ai bien entendu dire que quand Gaston Defer est mort, il y a eu un service multiconfessionnel ? Oui, ce n'est pas le cas. C'est ce que l'archevêque de Marseille a essayé de faire croire, parce que pour des raisons de capacité du bâtiment, les protestants ont demandé aux catholiques de prêter la cathédrale, et le lendemain de l'accord sur le prêt, la rumeur a été lancée par l'archevêché que c'était multiconfessionnel. Vous avez un très bon exemple des relations des catholiques en France vis-à-vis des protestants.
Anna Bozzo, membre associé du GCRN. Moi, je m'adresse à Jean Bobéro parce que ce que j'ai trouvé éclairant au maximum, c'est sa chronologie sommaire, autant que les autres annexes qui sont vraiment à savourer et à fouiller et à approfondir. C'est-à-dire, il parle de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire entre avril 1896 et juin 1898, les ministères Méline, dit ministère du ralliement, et juste avant, c'était entre octobre 97 et novembre 97, il y a le début de la campagne de solidarité avec Dreyfus, déjà condamné en 1894. Alors là, il y a peut-être un volet qui manque encore dans l'approfondissement, c'est-à-dire les rôles des Juifs dans les combats entre les deux Frances, notamment en Algérie, dans cette époque-là, et surtout, en même temps, la crise anti-juive de 1898 en Algérie, qui a été complètement occultée par les débats en France, qui étaient sur la loi, déjà sur les séparations. Et c'est vrai qu'à Alger, il y avait un maire d'Alger, étudiant de 25 ans, un tel Max Régis, qui se prétend socialiste et républicain. Et finalement, ça, qui a déclenché la plus grande crise anti-juive. Et très peu de temps après, c'est l'archevêque d'Alger, Lavigéry, qui se prononce pour les ralliements, même tout de suite après l'encyclique qui n'était pas encore connue. Sauf qu'il n'avait pas dit « Vive la République », mais « Vive la marine », ce qui est tout à fait différent.
Bon, je vous remercie. Je propose que Jean-Noël, Philippe, et pour finir Jean, nous ramasse en quelque sorte une réaction à ces interrogations. Ça peut durer, on le sent bien, très longtemps, mais je vous indique tout de suite qu'il y aura au moins deux séances pour le deuxième et pour le troisième tome, au cours desquelles nous pourrons poursuivre. Oui, Jean-Noël, s'il te plaît.
Je ne vais pas abuser de la parole. Non, je crois que si j'avais envie de choisir parmi tant de mérites, un qui est essentiel, c'est d'éclairer notre débat contemporain, dont on voit bien à quel point il demeure consubstantiel à un certain vivre ensemble, à quel point il est essentiel d'assurer que la laïcité, telle que nous la concevons, c'est-à-dire sans adjectif, s'il vous plaît, la laïcité, point, c'est-à-dire la tolérance, soit exercée, servie à tous les niveaux, et aussi, je dirais, par les hommes publics, dont les positions sont toujours, à cet égard, symboliques. Je me rappelle, on parlait de Clémenceau, qu'il n'avait pas accepté d'aller à Notre-Dame, on parlait de Notre-Dame, pour, contrairement à la demande de l'archevêque de Paris, pour être présent au Tédéum. L'archevêque lui a dit, mais les Français ne comprendraient pas, les catholiques ne comprendraient pas que le gouvernement ne vienne pas célébrer. Il dit, attendez, non, on n'a jamais empêché personne de le faire. Et on a envoyé Madame Poincaré. En 1940, passion et intérêt, cher Philippe Portier. Le gouvernement s'est précipité au moment où commençait la débâcle à Notre-Dame. Je dirais que nous sommes très attentifs à la force de la symbolique. Je me rappelle avec gratitude de la fureur du général de Gaulle lorsqu'à Saint-Pétersbourg, un petit complot de Gilbert Pérol et de Madame de Gaulle, peut-être, l'avait amené à communier. On lui a tendu une hostie, il n'a pas pu refuser. Il a dit, mais qui m'a fait communier ? Je crains que le président Chirac n'ait pas réussi à suivre ce même principe qui me paraît fondamental. Quand le Premier ministre Raffarin va à Rome, c'est bien avant le discours Sarkozy, pour l'occasion d'une cérémonie, je crois que c'était Sœur Teresa, il s'est incliné, il s'est mis à genoux devant le pape. Je crois à la symbolique de tout ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais un des enseignements de votre livre, c'est qu'on est dans le domaine des représentations, et pas seulement des idées et des intérêts, que la symbolique en République, c'est absolument fondamental. Avis à tous, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain.
Oui, juste un ou deux mots. Jean Bobéro a écrit, il y a maintenant une quinzaine d'années, vingtaine d'années, un livre qui s'appelait « La laïcité entre passion et raison ». Et ce qui me semble dans le cours de l'histoire du XXe siècle, et surtout depuis une trentaine d'années, c'est que notre débat reflète au fond cette ambivalence. À la fois, la loi de 1905 a été un moment de pacification et de rationalisation de la vie collective. Et en même temps, c'était un moment temporaire. Bien sûr, le droit demeure, mais toujours réapproprié par des discours qui sont très souvent des discours passionnels. Et ce qu'on voit à l'œuvre, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est sur le fondement de la récupération, de la réappropriation d'un certain nombre de discours qu'on voit à l'œuvre déjà dans les années 1902-1903, une sorte de retour à la passion qu'il faudrait de nouveau rationaliser ou pacifier.
Donc, rapidement, alors, sur l'intervention de M. Schiappa, moi non plus, je n'aime pas tellement le terme de compromis, je préfère parler de victoire pacificatrice. La loi de 1905 comme une victoire pacificatrice, parce que c'est bon, et la séparation en général, puisque en fait, si la loi avait été illibérale, si les catholiques avaient été réellement persécutés, le pape aurait gagné, puisque il souhaitait cette persécution régénératrice. Bon. Et finalement, en faisant des accommodements, mais en sauvegardant l'essentiel, Briand a gagné, mais a fait finalement la paix. À partir de 1908-1909, la séparation fonctionne, le Conseil d'État fait une jurisprudence adéquate par rapport à la loi, etc. Et, alors, il y a la guerre après, mais si la guerre avait éclaté en 1904, la France était beaucoup plus déchirée qu'en 1914. Bon. Donc, en 10 ans, il y a une paix, et malheureusement, évidemment, en 14, il y a un nouvel ennemi commun. Bon. Alors, la liberté de conscience, l'article 1 a été un enjeu fondamental, parce que ni le projet de Combes, de loi d'Émile Combes, ni le contre-projet de Maurice Allard ne comportaient l'article 1. L'article 1, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public. Bon. La Bienvenue Martin le mettait en article 2, inversait les articles 1 et article 2, et donc c'était d'abord le fait que les cultes n'étaient plus officiels, n'avaient plus de subventions, de salaire, etc. Et après, on parlait de la liberté de conscience et de culte. Et la commission et Briand ont tenu bon et ont voulu que ça soit l'article 1, enfin, que la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public soit l'article 1, et disent Briand, irrigue toute la loi. Donc, ça a été un enjeu fondamental où la commission, en général, et Briand en particulier, ont gagné contre, effectivement, des gens qui voulaient soit minimiser, soit même enlever cet article. Bon. Alors, Hollard joue un rôle. Mathiès, je ne l'ai pas rencontré sur le moment dans les journaux, mais j'ai cité le texte de Mathiès que vous avez publié en 2005 parce qu'il me semble tout à fait éclairant. Bon. Alors, sur laïcité et outre-mer, il est question parfois de mahométan dans les débats. Il est question parfois de mahométan. La France se veut puissance empire colonial. Et dans l'empire colonial, il y a évidemment la présence de l'islam. L'humanité dit d'ailleurs que justement l'islam est important et qu'il va falloir peut-être une rencontre entre la République et l'islam. Bon, il la souhaite. L'article 43 de la loi prévoit l'application de la loi en Algérie, mais avec un décret spécifique. Et après, vous lirez dans le livre 2, le tome 2, et c'est Dora Mamry qui fera le chapitre. Bon. Alors, Combes et la princesse carmélite, j'étais pas là pour tenir la chandelle. Mais en tout cas, si vous voulez, je vais contre les interprétations qui parlent seulement d'amitié. la princesse carmélite écrit à Émile Combes « Je suis à moitié ignorante de ces choses-là, mais je sais que quand une femme aime, elle se donne. Si toutes mes amies m'écrivaient ça, je serais vraiment comblée. Bon. » il est vu l'heure, hein, je pense qu'on peut mettre un peu du bout. Bon. Donc la chronologie. Alors, pour le rôle des Juifs. Alors, la campagne anti-juive, effectivement, c'est seulement à la fin de 1998 que le Parlement fait une motion qui combat l'antisémitisme en Algérie. Et les Juifs d'Algérie, je te passerai les articles, sont contre l'application de la séparation en Algérie. Bon. Donc, je vais finir en vous remerciant toutes et tous. Hein. Vous m'avez vraiment fait vivre une super soirée, en tout cas pour moi, parce qu'effectivement ce livre a été un moment important de ma vie. Et je remercie encore les intervenants, Charlotte et Michel, qui m'a proposé de l'éditer chez lui. Et heureusement, parce qu'effectivement, ça s'est très très bien passé.
Bon, merci.